Un excellent sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, le vent d'Orient. C'est une expression qui est mentionnée dans la Bible en tant que prophétie. Elle annonce un événement majeur qui va bientôt se produire au temps de la fin où nous sommes. C'est l'entrée en action, en fait, d'une superpuissance orientale, formée par les pays du nord et de l'est de l'Europe, et principalement de la Chine, de la Russie, des pays de cette région-là, et probablement de l'Iran, de la façon dont on voit la formation géopolitique se développer de nos jours. Et cette prophétie biblique-là est annoncée depuis plus de 2000 années. On en parle parfois comme étant le roi de l'Est ou le roi de l'Orient. C'est le troisième empire du temps de la fin, décrit par Daniel. Il y a trois grands empires qui vont s'affronter d'ici quelques brèves années sur la scène mondiale, qui vont entraîner des désastres extraordinaires. L'empire romain, c'est-à-dire la formation de l'Europe, qui va se compléter bientôt. Et ensuite, fédération des pays arabes au sud, qui vont s'en prendre à l'Europe après. Et ensuite, fédération des pays du nord-est de l'Europe, c'est-à-dire l'Orient. Allez à Daniel chapitre 11, où il est question de ça. Daniel chapitre 11. Et cet empire-là, ce troisième roi, le roi d'Orient, qu'on peut appeler aussi le vent d'Orient, il en est question au verset 44. Daniel 11, verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, en parlant de la bête qui sera à ce moment-là rendue au Moyen-Orient, qui aura pris possession de la région. Alors, à ce moment-là, les rois d'Orient, la Chine, la Russie et leurs associés vont entrer en action et la bête sera effrayée. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Voyons le contexte. Commençons au verset 40. Au temps de la fin, voyez-vous à quel moment ça se situe? Le roi du Midi, c'est-à-dire la fédération des pays arabes, islamiques, se heurtera contre lui, contre le roi du Nord, contre l'Europe unie. Et le roi du Septentrion, l'Europe unie, fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays. Pour Dieu, c'est Israël. Et plusieurs succomberont, mais Édom et Moab et les principaux enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Bon, là, on voit que l'Europe unie sera maître du Moyen-Orient à ce moment-là, ça s'en vient bientôt. Mais quand ça aura eu lieu, là arrive le verset 44, « Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. » Et là, ce sera le groupement des pays du Nord-Est qui vont entrer en action. Et ça, c'est en préparation actuellement. Ils vont entrer en action à ce moment-là, mais cette fédération-là est en préparation. Par exemple, le mois dernier, il y a eu un premier sommet depuis trois ans entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud. C'était des discussions pour établir un pacte d'échanges commerciaux entre eux. Mais pas seulement entre eux, c'est qu'ils veulent l'étendre aussi aux pays de la région. Alors, on voit se former une grande fédération dans cette région-là. Un autre exemple de cette formation, de cette puissance qui va apparaître et qui va agir puissamment selon la prophétie bientôt. Récemment, le dirigeant de la Corée du Nord s'est rendu en Chine à deux reprises pour discuter avec le président Xi Jinping. Autre chose aussi, depuis plusieurs mois, il y a des grands rapprochements entre la Chine et la Russie. Beaucoup de collaboration entre ces deux joueurs majeurs sur la scène mondiale. Ils ont déjà établi beaucoup de pactes d'échanges commerciaux et même des exercices militaires communs. Alors, ça vous donne une idée de ce qui se passe, de ce qui se trame Et nous, on sait où ça va aller. Les gens ne comprennent pas où ça va. Mais nous, on sait qu'il y aura un troisième roi ou un troisième empire, si vous voulez, qui va entrer en action à un moment donné quand l'Empire romain aura pris possession du Moyen-Orient. La Chine devient de plus en plus puissante, à tout point de vue, vous savez. Et c'est intéressant de suivre les nouvelles quand on connaît la prophétie, parce qu'on voit ça arriver sous nos yeux. La Chine devient de plus en plus puissante financièrement. Elle achète partout. Elle a beaucoup d'argent. D'ailleurs, au Canada, ici, il y a une partie de nos sables bitumineux qui est propriété des Chinois. On a plusieurs entreprises qui ont été achetées par les Chinois. En Europe, c'est la même chose. Des ports de mer, des chaînes d'hôtels, et ainsi de suite. Cette semaine, en Chine, ils ont inauguré la première centrale de production d'électricité bâtie complètement en Chine, avec une technologie française de l'EDF, mais l'EDF leur a transmis ses données, ses connaissances, et eux sont capables d'opérer là-dedans, et ils vont pouvoir continuer ensuite pour le reste. Alors, au point de vue financier, la Chine est très, très puissante. Ils ont des investissements massifs partout. Ils ont aussi une implantation majeure du côté de l'Afrique. Si vous voulez voir à quel point c'est important, vous irez sur le site Internet Chine-Afrique. Chine-Afrique, d'un mot. Et vous regarderez ce que la Chine est en train de faire du côté de l'Afrique. De posséder des terres à l'infini, pour ainsi dire, de faire travailler les gens là-bas, de développer la production, et c'est extraordinaire. Et là, vous avez un président chinois qui veut redonner son ancienne splendeur à la Chine. Et il y a actuellement un projet pharaonique. C'est de construire de nouvelles routes de la soie. Vous avez probablement entendu parler de ça dans les nouvelles. Pourquoi? Pour développer son commerce mondial, puis affermir sa puissance et son autorité dans le monde. Parce que la Chine veut intervenir mondialement. Les routes de la soie, ça a déjà existé. Quand vous regardez dans l'histoire, là, c'était des voies par lesquelles le commerce des Chinois circulait dans de grandes régions du monde. Actuellement, ces routes de la soie comprennent deux circuits. Il y a d'abord une ceinture terrestre qu'on appelle, qui relie la Chine à l'Europe occidentale, par l'Asie et par la Russie. Et la deuxième route, ou la deuxième ceinture, c'est une ceinture maritime, c'est pas une ceinture terrestre. Et elle permet à la Chine de rejoindre l'Afrique et l'Europe par la mer de Chine et l'océan Indien. Ça vous donne une idée un peu de la perspective de la Chine et de ce qu'elle est en train d'accomplir. Ce projet-là prévoit la construction de routes, de ports, de chemins de fer, de parcs industriels dans 65 pays. Dans 65 pays. Quand je vous dis que c'est un projet pharaonique, là, dans 65 pays, et le montant prévu pour ces infrastructures, c'est 1 000 milliards de dollars. La Chine est riche, 1 000 milliards de dollars. Maintenant, dans mon sermon, je veux qu'on avance un petit peu, puis qu'on voit comment la prophétie de Dieu est précise par rapport à ce pays-là, par rapport au roi de l'Orient aussi qui va entrer en scène à un moment donné. On va voir dans le sermon pourquoi et comment la Chine devient une superpuissance mondiale, telle que ça a été annoncé par Dieu dans sa parole à plusieurs endroits. Et on va voir aussi les raisons historiques et les raisons culturelles de ça. Il y a des raisons historiques et il y a des raisons culturelles. Actuellement, la Chine, vous le savez, c'est le pays le plus peuplé de la Terre. Il y a 1,4 milliard de Chinois sur le territoire. Et c'est le pays qui actuellement a la plus grande armée du monde. Sous les drapeaux, elle a, en fonction, au moment où je vous parle, 2 millions d'hommes. 2 millions d'hommes dans l'armée chinoise. Mais ça, c'est peu. Regardez ce qui est... Vous pouvez voir les chiffres qui sont officiels sur Internet dans les rapports qui existent. Ils ont par contre 318 millions d'hommes aptes à servir dans le service militaire. Autrement dit, ils ont 2 millions de soldats actifs, mais il y a 318 millions d'hommes qui seraient disponibles pour le service militaire. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de la Chine et de sa puissance militaire, chaque année, il y a 10 millions de jeunes hommes qui deviennent d'âge militaire. Ça dépasse l'entendement, là. C'est grand et c'est gros. Et quand ils vont entrer en action, ça vous dit une chose, c'est que ça va être majeur aussi. Ça va déplacer beaucoup de choses. C'est pas pour rien que l'empereur Napoléon, à un moment donné, a dit « Lorsque la Chine va se réveiller, cela secouera le monde entier. » Napoléon avait entrevu ces possibilités-là. Et il a dit « Lorsque la Chine va se réveiller, ça va secouer le monde entier. » Il y a plusieurs commentateurs actuellement qui sentent venir le danger, mais sans comprendre vraiment où cela va mener. Mais ça va mener à des événements étonnants qui vont très bientôt influencer la vie de tous les êtres humains sur la Terre, sans exception. Parce que ce sont des joueurs majeurs qui vont entrer en action dans des circonstances exceptionnelles. Pourquoi est-ce que l'Église de Dieu annonce ces choses-là et connaît ces choses-là? Encore là, c'est une promesse de Dieu. Et c'est fantastique. Dieu dit dans Amos 3, verset 7, vous pourrez aller voir, « L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Ceux qui ont la responsabilité d'annoncer ce qui vient. Et c'est la responsabilité de la petite Église de Dieu d'annoncer ça. Et quand on regarde ce qui a été annoncé dans le passé par l'Église de Dieu, sous M. Armstrong, entre autres, on voit que les choses qui ont été annoncées se sont réalisées. Même si au moment où elles ont été annoncées, ça ne semblait pas du tout être le cas. Quand M. Armstrong a annoncé, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'Allemagne était à genoux, en ruine, M. Armstrong avait annoncé que l'Allemagne se relèverait et qu'elle deviendrait la principale puissance de l'Europe et qu'elle dirigerait la dernière résurrection de l'Empire romain. Au moment où M. Armstrong a déclaré ça, les gens n'y croyaient pas. Mais ça s'est réalisé. Et c'est en train de se réaliser. L'Allemagne s'est relevée, elle est en charge de l'Europe, et elle est en train de préparer le travail qui va se faire par la bête. M. Armstrong avait annoncé que les pays de l'Est faisaient partie de l'Union soviétique, allaient en sortir parce qu'ils devaient, selon ce qui est écrit dans la Bible, faire partie justement de la bête, de l'Europe unie. Alors, ils savaient par la Bible, parce que Dieu révèle à ses serviteurs, ceux qui ont la responsabilité d'annoncer les choses qui viennent. Ça a été la même chose pour la chute du mur de Berlin. M. Armstrong l'avait annoncé, l'Église l'a annoncé pendant des années, et ça s'est produit tel que ça avait été mentionné. Parlant de la Chine, vous pourrez peut-être, si le cœur vous en dit, aller voir un article très intéressant qui a été écrit par M. Douglas Winnail. Dr. Winnail, vous trouverez ça dans Le Monde de demain d'octobre-décembre 2000. Ça remonte à loin, mais c'est un article superbe. Je m'en suis inspiré un peu à l'intérieur du sermon d'aujourd'hui. Ça s'appelle « Le retour du dragon ». Le retour du dragon. Et je vous cite ici un petit passage. « Pendant la majeure partie de sa longue histoire, la Chine était un État puissant. Les Chinois constituent la plus ancienne civilisation ininterrompue dans le monde et aussi le plus ancien État centralisé. » Tandis que les empires d'Égypte, d'Assyrie, de Babylone, de Grèce et de Rome se levaient puis s'effondraient, l'empire chinois continuait à grandir en taille et en splendeur. La Chine a toujours été là, a passé à travers ses difficultés. Et les Chinois appelaient leur pays le royaume du milieu, car ils croyaient que c'était le centre et le milieu de la terre, comme c'est écrit dans le livre « The Eagle and the Dragon » de Lawson. C'est leur perception. Le trône du dragon de l'empereur gouvernait toute chose, comme c'est marqué dans ce livre. Toute chose sous les cieux. Le gouvernement central était hiérarchique et autoritaire. Même chose qu'aujourd'hui. Ils n'ont pas changé de ce côté-là. Historiquement, les Chinois regardaient les étrangers comme des barbares, comme des gens inférieurs à eux. OK? Alors ça vous donne un petit peu une idée de la nature de ces gens-là. Ils ne sont pas pires que les autres, pas mieux que les autres, ce sont des êtres humains, mais je vous décris maintenant quelle est leur culture, quelle est leur façon de voir les choses. Ils ont été très inventifs et très créatifs. C'est eux qui ont inventé le papier, c'est eux qui ont inventé les caractères amovibles d'imprimerie, la poudre à canon, la boussole, plein d'autres choses, je pourrais vous donner encore une grande liste. Ce sont des gens très, très, très créatifs. Et je vous cite ici, au début du 15e siècle, l'empereur Ming avait envoyé une flotte de bateaux luxueux, les plus grands bateaux de bois jamais construits. Il a envoyé ces bateaux-là vers l'Inde, vers l'Afrique et vers l'Indonésie. Pourquoi? Pour établir du commerce, mais en même temps pour montrer sa supériorité et montrer la grandeur de la Chine. Nous, on a grandi à une époque où on voyait moins la grandeur de la Chine. On voyait la Chine comme un pays de seconde zone. Mais avant, ça a été un pays glorieux qui a occupé beaucoup d'espace sur le territoire du monde. Le glorieux passé de la Chine est considéré par la majorité des Chinois comme une source d'orgueil. Eux, c'est leur histoire, ils y tiennent. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent retrouver la gloire ancienne. Et c'est pour ça que vous voyez le président avec autant de fermeté puis avec des projets aussi importants que ceux qu'il met de l'avant. Alors, ils ont été glorieux, bien oui. Ils ont eu des périodes dans l'histoire où ils ont été majestueux, ils ont été riches. Mais il y a plusieurs puissances étrangères qui les ont exploités, qui les ont maîtrisés, qui les ont affaiblis, comme le Portugal, l'Amérique, l'Allemagne. Et ça, ça a créé un profond sentiment d'humiliation culturelle. Profond sentiment d'humiliation culturelle. Alors, on comprend pourquoi ils veulent revenir en force et dans quelle perspective ils reviennent en force. C'est écrit dans « The Coming Conflict with China », écrit par Bernstein et Monroe. Concernant les États-Unis, il y a un général chinois qui a déclaré « Pendant une période relativement longue, il sera nécessaire que nous cultivions notre sens de vengeance. » Ça, c'est un général chinois qui a déclaré ces choses-là. Là. Il faut qu'on cultive notre sentiment de vengeance. Ils veulent reprendre. Nous devons cacher nos capacités et attendre notre tour. C'est important qu'on sache ces choses-là. Ça fait partie de la prophétie et ça explique pourquoi la Chine va revenir en force et quand elle va revenir en force, ce ne sera pas pour reculer. Là. Et ça va être au maximum. Et ils se préparent. Et ils se préparent de façon guerrière et de façon étonnante, je vous en parlerai tantôt. L'Amérique et les autres nations occidentales, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont même aidé la Chine au point de vue économique puis au point de vue militaire pendant des années. Quand on regarde l'histoire, c'est qu'ils ont été aidés par l'Amérique et par beaucoup d'autres pays parce qu'ils étaient en bas. Et ils ont été aidés de façon magistrale de même. Mais l'Amérique puis les pays qui les ont aidés, c'était pas pour leurs beaux yeux, là. C'est parce qu'ils voulaient faire contrepoids à la Russie. Comprenez-vous? Parce que la Russie était en train d'étendre son hégémonie et ils voulaient faire un contrepoids à l'influence de la Russie. Donc, ils aidaient la Chine militairement, économiquement, comme vous voulez, de toutes sortes de façons. Ce qui est arrivé, 1989-1990, chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS, division de la Russie. Et en une nuit, la Chine a pris la prédominance parce que la Russie s'était effondrée. Voyez-vous comment l'histoire se déroule par rapport à la prophétie? Ça ne se fait pas en une journée. Je vous donne la perspective pourquoi que la prophétie annoncée par Dieu dans sa parole s'accomplit dans le temps. Et avec l'information et l'Esprit de Dieu, on peut comprendre d'où ça vient, où est-ce qu'on est rendu et ce qui s'en vient. Le développement de l'économie chinoise après ça et sa position grandissante ont rallumé justement la fierté nationale, la confiance en eux-mêmes et les ambitions impériales d'autrefois. On va retrouver notre empire qu'on avait il y a des centaines d'années. C'est dans l'esprit chinois. C'est pour ça que depuis ce temps-là, historiquement, vous regardez, la Chine a repris Hong Kong, vous avez vu. La Chine a ramené dans son giron Hong Kong qui était là auparavant. Elle a fait la même chose avec Macao. La Chine s'est emparée ensuite du Tibet. Et là, ils ont établi des bases militaires à partir desquelles, sur les hauts plateaux, ils peuvent menacer les pays environnants et même plus loin. Et la Chine prend de plus en plus possession d'une vaste région du sud de la mer de Chine. Elle y construit des îles de toutes pièces, et avec les lois internationales, ça leur permet, avec la distance de la Terre, d'avoir l'hégémonie sur ces régions-là, même si ça crée des conflits avec certains pays. Et là, ils font des pressions énormes, ils resserrent l'étau autour de Taïwan pour ramener Taïwan aussi dans leur giron. Dans The Red Dragon Rising, les auteurs Timberlake et Triplett ont écrit ceci. Il y a un des généraux chinois les plus haut placés qui a déclaré « Depuis le début des années 90, quand la Chine a émergé après la chute de la Russie, nous nous sommes adaptés et nous nous sommes préparés à la stratégie de la suprématie mondiale. Nous nous sommes préparés à la stratégie de la suprématie mondiale et à la politique de fer. » Ça vous donne une idée encore là dans quel esprit les choses sont en train de se faire. Et ça va dans le même sens que l'ancien dirigeant chinois Mao Tse-tung disait. Mao Tse-tung disait, le pouvoir est au bout du fusil. Et la Chine pense encore de la même façon. Sauf qu'elle a des fusils beaucoup plus puissants qu'elle pouvait avoir à l'époque. Bernstein et Monroe, dans Foreign Affairs, ont écrit « La République populaire de Chine s'est maintenant engagée dans des prises de position militaires les plus rapides et les plus vastes dans le monde. » Et je vous cite ici un sage chinois, Sun Tzu, un sage militaire chinois qui disait que l'essence de la guerre, c'est la tromperie. L'essence de la guerre, c'est la tromperie et que l'armée doit être établie en secret. Et ce qu'on voit de la Chine, ce n'est que le dessus de l'iceberg, si vous voulez, en termes de puissance militaire, en termes de puissance technologique et tout ça. Et quand ce sera mûr, quand ça sera prêt et quand il y aura à s'en servir, le monde va être étonné. Établissant en secret une vaste machine de guerre basée sur les armes et les tactiques les plus modernes. Et dans ce sens-là, je vous cite une note que j'ai tirée d'un site Internet qui s'appelle Zone militaire Asie-Pacifique Stratégie, le 16 février 2018, où on parle que la Chine multiplie son expansion économique et qu'elle veut avoir une longueur d'avance aussi sur le plan technologique. Mais je vous cite l'article que j'ai lu. C'est ainsi que la Chine a testé son premier missile, non plus supersonique, c'est pas assez. Un missile supersonique, c'est pas assez. Mais hypersonique, un missile hypersonique, capable d'aller à plus de 5000 km/h. 5000 km/h, ça veut dire qu'il peut traverser le Canada dans une heure. Ça vous donne une idée de la puissance de ce qu'on connaît. Et ça, c'est juste ce qu'on peut voir. Et la Chine n'aura jamais autant dépensé que dans le domaine exo-atmosphérique, c'est-à-dire la guerre de l'espace, avec la capacité d'armer des satellites pour aller en détruire d'autres. La guerre des étoiles. Certains le présentaient comme un scénario hypothétique, mais quand ça va commencer, eux vont être prêts et les dommages qu'ils vont faire vont être énormes. Alors, le président Xi Jinping, pour lui, c'est puissance économique, puissance militaire, puissance nucléaire, puissance spatiale. Et ils seront en tête de bien des pays. Et je vous cite maintenant ce qui a été écrit sur Europe 1, journal du dimanche 18 octobre 2017. L'amiral Prazuk, chef d'état-major de la marine française, déclarait ceci il y a 3 mois devant la commission de la défense. Regardez bien, c'est un militaire français, chef d'état-major, qui dit « La Chine, en 4 ans, a construit l'équivalent de la marine française en bateau et en sous-marin. » Dans l'espace de seulement 4 ans, la Chine a construit le même nombre de bateaux et de sous-marins que tout l'arsenal de la France. Et ils n'ont pas arrêté de construire, là. Ça vous donne une idée de l'ampleur de la puissance chinoise actuellement. Et en juillet, cet homme-là disait qu'il y avait plus de bâtiments chinois en mer Méditerranée que de bâtiments français. La Chine est puissante et va continuer de développer sa puissance. Et l'aspect le plus sérieux de la prise de position militaire de la Chine, ça veut dire de disposer d'armements high-tech le plus possible et d'équipements informatiques pour la guerre de l'information. Et ça, c'est commencé un peu. Mais on voit simplement des petits soubresauts. On n'a pas rien vu encore. Cela inclut l'usage de missiles de précision de longue portée et aussi le brouillage ou le piratage des ordinateurs ennemis. Vous avez vu que les ordinateurs, parfois, sont piratés. On se demande d'où ça vient. Parfois, ils se doutent que ça vient de la Russie. Parfois, ils se doutent que ça vient de la Chine. Mais il y a des attaques et ça crée des problèmes à un niveau pas majeur encore, mais ça veut dire qu'ils peuvent entrer dans nos systèmes et peuvent créer des problèmes. Pour désorganiser les communications et le trafic aérien, ils pourraient paralyser le trafic aérien facilement. Pour provoquer des coupures sur les réseaux électriques, vous imaginez qu'en temps de guerre ou en temps de conflit, qu'on puisse, comme ça, par les moyens de la haute technologie, faire cesser les centrales de production électrique aux États-Unis ou au Canada, surtout en hiver. Vous imaginez dans quel état nous nous retrouvions. Ils peuvent, à partir de là, ils ont maintenant la possibilité de vider les comptes bancaires et de contaminer l'approvisionnement en eau potable. Ça, c'est publié chez par Tim Berlake et Trippett dans Red Dragon Rising, le retour du dragon rouge. Et ça, ça date déjà de quelques années, ce que je vous dis là, la dernière citation là. Et là, on a vu au cours des dernières années les attaques qu'il y a eu sur nos systèmes. Les stratèges chinois ne se contentent pas de reproduire l'équipement américain. Ils veulent aller beaucoup plus loin. Et ça a été publié dans The American Spectator. Ils veulent développer un tout nouveau système d'armement qui pourrait rendre obsolète ou inutile toutes les catégories d'armes traditionnelles. Vous avez bien compris, là. Et ça, ça veut dire beaucoup. Ils veulent avoir un système d'armes qui va être capable de paralyser toutes les armes traditionnelles puis de travailler à leur niveau, ce qu'ils vont vouloir faire. Au cours des deux derniers siècles, vous savez, les nations occidentales ont gouverné la planète. Éphraïm, l'Angleterre, et Manassé, les États-Unis. L'Angleterre, à partir des années 1800, et après ça, c'est les États-Unis qui ont pris la relève, si vous voulez. Alors, ils ont contrôlé la planète. Maintenant, l'Occident et l'Amérique viennent d'entrer dans une période critique, très critique. Tout est en train de changer. Si vous allez voir dans le livre de Samuel Huntington de l'Université de Harvard, « The Clash of Civilization », lui et d'autres historiens affirment que la révolte contre l'Occident, elle est commencée. Et on le voit aussi dans les nouvelles. On le voit à partir des pays islamiques, on le voit à partir de l'Europe, on le voit à partir de la Chine. Le nombre d'anti-américains augmente chez les islamiques, chez les Européens, chez les Asiatiques et de façon spéciale en Chine. Alors, on voit la tendance que la situation mondiale prend. Et la Chine est offensée de l'ingérence américaine dans ses affaires internes et de l'intimidation internationale dont fait preuve les États-Unis actuellement. Ça les offense profondément, ça leur rappelle leur ancienne histoire et ça les aide encore à se préparer davantage pour repousser les États-Unis et ce qui vient de ce côté-là. Les Chinois perçoivent l'Amérique comme un tigre de papier édenté. J'aime l'image. Un tigre de papier édenté. Donc, une superpuissance qui n'a pas de puissance. Qui est qui devient un gros bluff, si vous voulez. Et ils perçoivent les États-Unis comme une superpuissance dont les jours sont comptés et qui doit être remplacée. Et quand on regarde les nouvelles avec les décisions américaines de ce temps-là qui se mettent à dos, où les Américains se mettent à dos une partie de la population mondiale, on voit que ça va exactement dans ce sens-là et de plus en plus de gens, de plus en plus de pays se disent que l'Amérique doit être mise de côté, doit cesser son influence et son ingérence sur la scène mondiale. Et il y a des auteurs qui disent que l'Amérique et la Chine se dirigent vers un désastre. Et ça prendrait simplement une goutte d'eau là, qui fait renverser le vase pour que ça déclenche des choses majeures. Par exemple, une pression trop grande sur Taïwan, encore une expansion en mer de Chine ou autre chose, ou le rappel de la dette américaine, parce que les Américains doivent à la Chine des montants phénoménaux, et si la Chine décidait de serrer le boyau d'alimentation, les États-Unis seraient vraiment mal pris. Alors, la situation tendue et conflictuelle qui se développe présentement entre la Chine et les États-Unis, ça, c'est encourageant aussi. Ça correspond exactement à la prophétie que Dieu avait prédit quand il a dit qu'il briserait la force d'Israël, particulièrement des descendants anglophones d'Éphraïm et de Manassé. Allez à Lévitique chapitre 26, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26, et on va lire le verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. Dieu avait annoncé ça il y a des milliers d'années et il avait prévu qu'au temps de la fin, nos nations allaient se détourner complètement et qu'il allait intervenir avec force. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. Et ça, c'est commencé. Le terrorisme s'est étendu de façon magistrale dans nos pays israélites. Et on le voit se continuer. Allons maintenant au verset 19. « Je briserai l'orgueil de votre force. Je briserai l'orgueil de votre force. Force militaire, force économique, force sociale. Dieu dit à nos nations, je vais briser cette force-là. Allez dans Osée chapitre 7 maintenant. Osée chapitre 7. Le prophète Osée parle clairement de ce qui est en train d'arriver à nos nations israélites actuellement, et notamment aux États-Unis et à l'Angleterre, et de ce qui va arriver bientôt à nos nations israélites en ces temps de la fin. Osée chapitre 7, et regardez le verset 8. « Éphraïm se mêle avec les peuples. » Éphraïm ici est nommé en tant que tribu tête d'Israël. Ça veut dire aussi toute la nation d'Israël, autrement dit là. Alors, Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Regardez le verset 9. Des étrangers consument sa force et ils ne s'en doutent pas. Les étrangers achètent ses industries, lui prêtent de l'argent, interviennent sur son sol de toutes sortes de façons. Et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui. Ils ne s'en doutent pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu. Et ils ne le cherchent pas malgré cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Et nos pays ne comprennent pas ce qui leur arrive actuellement. Ils pensent qu'en mettant le poing sur la table, ils vont encore obliger les autres à reculer et à se soumettre à leur dictat, alors que Dieu n'est plus avec eux et que Dieu permet que ces choses-là arrivent pour que la prophétie annoncée il y a des milliers d'années se réalise, parce que nous sommes rendus là. Mais Dieu le révèle à ceux qui l'appellent. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte. Ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme des oiseaux du ciel. Voyez-vous, à ce moment-là, Dieu ne les bénira plus. Il va les punir. Je les châtirai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Qu'est-ce que vous pensez que nous avons comme responsabilité en tant qu'Église de Dieu? En tant que petite église du Dieu vivant, présente sur tous les continents et qui annonce des choses à venir. C'est nous qui annonçons au monde entier ce qui vient, oui, mais en particulier aux nations israélites, ce qui les attend. C'est nous qui avons la responsabilité de les avertir. Je les châtirai, c'est pour ça que Dieu dit ça, comme ils en ont été avertis dans leur assemblée, dans leur pays. Regardez juste dans la page précédente, c'est précisé. 5, 9. Osée 5, verset 9. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. Et le jour du châtiment s'en vient. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Dieu annonce ces choses-là par ses serviteurs, par l'Église de Dieu qui a la mission d'annoncer ce qui vient et de dire aux gens, changez pour que Dieu vous aide, que Dieu intervienne pour vous. C'est l'avertissement que l'Église a la responsabilité de donner. Éphraïm, c'est-à-dire Israël, qu'est-ce qu'il fait? Comme on vient de voir dans les textes, il va vers la Syrie, il va vers les pays étrangers, il essaie de faire des alliances, et tantôt il essaie d'être bon envers les gens, mais tantôt il essaie de les écraser pour tirer profit de ces gens-là. Il se fait détester à un point majeur actuellement. Et la Bible dit clairement qu'en faisant ça, Israël poursuit le vent d'Orient. Poursuit le vent d'Orient. Osée chapitre 12. Qu'est-ce qu'Israël fait? Israël se tourne vers l'Asie. Et ce n'est pas aujourd'hui, là. Israël s'est tourné vers l'Asie, vers la Chine, depuis plusieurs années. Ils ont fait des traités commerciaux avec la Chine. Ils ont emprunté beaucoup d'argent de la Chine. Ils se sont tournés vers l'Orient. Ils se sont tournés vers la Chine. Ils ont emprunté énormément. Et là, maintenant, la situation change et avec la nouvelle administration américaine, on intimide la Chine. On la pousse au pied du mur. On l'accuse même et on lui met des taxes sur ses exportations. On est en train, autrement dit, comme les serviteurs de Dieu ont mentionné au Tomorrow's World Now de cette semaine, on est en train de lancer une guerre commerciale qui pourrait se terminer en guerre tout court. Parce que ces choses-là ont beaucoup d'implications pour l'ensemble des pays. Regardez ce qui est marqué dans la Bible, qui est écrit il y a longtemps, là, concernant ce que je vous dis et la situation actuelle. Osée 12, et lisons le verset 1 et 2. Éphraïm, ou Israël, m'entoure de mensonges et la maison d'Israël, donc toute la maison d'Israël, et en particulier Éphraïm et Manassé, les nations de langue anglaise, et la maison d'Israël de tromperie. Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Et regardez verset 2. Éphraïm se repaît de vent et poursuit le vent d'Orient. Il poursuit le vent d'Orient. C'est ce qu'il a fait avec ses engagements commerciaux envers la Chine. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Il la poursuivait pour avoir des avantages. Maintenant, Éphraïm poursuit la Chine pour l'écraser et essayer d'avoir davantage d'elle encore. Osée avertit nos nations israélites que les peuples s'assembleront contre nous. Osée 10, juste un peu avant. Osée 10, verset 10. Osée 10, verset 10. « Je les châtierai à mon gré, et les peuples s'assembleront contre eux, en parlant d'Israël, quand on les enchaînera pour leur double iniquité. » C'est très clair comment Dieu voit les choses, comment Dieu annonce les choses. Alors, Osée avertit nos nations israélites qu'il y a des peuples qui vont s'assembler contre eux et qui vont les attaquer. Et que le vent d'Orient va venir, mais en agitant une grande épée, des armes jamais vues, des armes puissantes, des armes plus puissantes que les armes de l'Amérique. Osée chapitre 13. Osée chapitre 13. On va lire versets 15 et 16. Éphraïm, ou Israël si vous voulez, a beau être fertile au milieu de ses frères. Le vent d'Orient viendra. Le vent d'Orient viendra. Le vent de l'Éternel s'élèvera du désert. C'est-à-dire que Dieu va permettre que ces nations-là s'en prennent à nous directement et nous affaiblissent. Desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. Samarie sera punie. Ça, c'était la capitale nordique de l'ancien royaume d'Israël. Parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu et qu'ils n'ont pas changé, malgré tous les avertissements que Dieu leur a donnés et qu'il leur donne encore. Ils tomberont par l'épée, cette grande épée puissante qui va venir de l'Orient, le vent d'Orient. Leurs petits-enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre des femmes enceintes, comme on fait lors des guerres épouvantables. Le vent d'Orient viendra avec une grande épée. Et c'est pas tout, parce que la Chine actuellement, elle arme des nations contre l'Occident. Tout ça, ça se prépare. Vous savez, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui avertissaient de ce qui s'en venait. Mais la plupart ne croyaient pas que ça allait arriver. Absolument pas. Nous, notre rôle, c'est d'avertir de ce qui s'en vient et d'avertir surtout l'Église d'être prête, de se préparer, de mettre les choses essentielles de leur vie en ordre pour être prêts aux grands événements qui viennent. La Chine, actuellement, arme des nations contre l'Occident. Même que la Chine a des missiles nucléaires pointés sur les villes américaines de l'ouest du Pacifique et sur les bases américaines de l'ouest du Pacifique. Et ça, ce que je vous dis là, ça date déjà de quelques années. Ça a été publié par Godwin. Le livre, c'est « China's Nuclear Forces and Assessment ». Et on nous dit que certains de ces missiles ont un nom spécial, les missiles chinois, qui sont pointés vers des bases et des villes américaines de l'ouest du Pacifique. Il y a un nom spécial pour un certain nombre de ces missiles-là. Regardez bien. Il ne se passe rien pour rien. Le nom en chinois ne vous dira rien. C'est Dongfeng. D-O-N-G-F-E-N-G. Ça, c'est le nom d'un certain nombre de leurs missiles qui sont pointés sur les régions dont je vous parle. Mais la traduction française du nom de ces missiles-là, c'est « Vent d'Orient ». Vent d'Orient. Dieu ne laisse rien passer et Dieu nous donne toutes les informations qu'on a besoin, même dans la signification des noms, des lieux, parfois, des gens. C'est puissant, vous savez. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on sache qu'est-ce qui se passe actuellement et qu'on se prépare. Osée chapitre 10 maintenant. On est dans Osée 14. Allez à Osée chapitre 10. On va lire le début du verset 14. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple et toutes tes forteresses seront détruites. Ça, ça parle d'Israël. Quand nous serons attaqués, nous ne serons incapables de nous défendre. Les armes utilisées contre nous seront des armes de puissance et de nature supérieure à celles que nous avons maintenant. Et nos systèmes de défense ne tiendront pas le coup. Toutes les forteresses d'Israël seront détruites. Ça aussi, c'était prédit il y a très longtemps. On peut même remonter, regardez, aller dans Deutéronome 28. C'était prédit dans ce chapitre-là, Deutéronome 28. Et on va lire le verset 15. Dieu rappelle la même chose. Il dit, si vous obéissez pas à mes lois, il avait dit ça longtemps, il y a très longtemps, à la nation d'Israël, si vous obéissez pas à mes lois, il y aura des conséquences. Si vous obéissez, il y aura des bénédictions. C'est la même chose que dans nos vies personnelles. Surtout à l'époque où on est rendu, le choix est encore là et on ne doit pas hésiter entre les deux. On doit faire un choix clair et prendre une direction et y tenir de tout cœur. Mais Dieu rappelle ici les promesses qu'il a faites, de bénédiction ou de malédiction, selon le comportement d'Israël, et on voit qu'on est rendu au temps de la fin où Israël rejette totalement Dieu. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vous pourrez chez vous lire la suite de ce chapitre-là qui décrit les choses horribles qui s'en viennent pour nos nations israélites. Regardez maintenant le verset 19. Il dit, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Ça, c'était difficile à comprendre il y a peut-être 15-20 ans, peut-être même moins que ça, lorsqu'on regardait comment les États-Unis, comment nos pays israélites, comment l'Angleterre étaient considérés dans le monde. Mais là, on peut comprendre que ça s'applique maintenant. Tu seras maudit à ton arrivée. Les gens ne veulent plus les voir arriver, nos nations, les Américains, les Israélites. Et tu seras maudit à ton départ. Bien fait, va-t'en, on ne veut plus te voir. Et on voit la réaction actuellement en Europe en ce qui concerne les tarifs que M. Trump est en train de vouloir imposer, la réaction forte qui se fait là-bas. On met de plus en plus les États-Unis de côté et on les considère maintenant comme justement un tigre de papier qu'on doit mettre de côté parce qu'il ne sert plus à rien, sinon à créer des problèmes. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Ça, ça vient. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes. Et ça, tu te sauveras par plusieurs chemins. C'est déjà commencé. On pense à ça comme quelque chose qui va arriver dans le futur. Mais cette chose-là est déjà en marche depuis quelques années quand vous regardez l'histoire. Regardez ce qui s'est passé dans la guerre de Corée. Les troupes chinoises ont combattu les Américains dans la guerre de Corée. Ça a commencé là, à un niveau plus bas, mais ça a commencé là. Après ça, les troupes chinoises ont contribué à l'échec des Américains au Vietnam. Ils étaient derrière les Vietnamiens. Alors, comprenez-vous que l'implication de la Chine contre les États-Unis, c'est pas d'hier, là. Ça va en augmentant, c'est dans cette direction-là. Et l'Amérique devient de plus en plus le point central de ressentiment de l'Asie, en plus des pays islamiques. Israël, Éphraïm, est une colombe stupide. The New Republic, lié le 19 avril, il y a longtemps, 1999, disait ceci, « Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'Amérique a initié des visites d'échange avec les Chinois, qui ont permis au personnel militaire chinois de voir ses équipements militaires les plus sophistiqués et les manœuvres des Américains, et même de poser des questions au sujet de la vulnérabilité et des failles des porte-avions américains. Quand Dieu dit qu'Israël est une colombe stupide, c'est fondé. On va chercher nos ennemis et on leur montre tout notre système de défense, comment ça fonctionne. On leur explique même les failles qu'il peut y avoir. Alors, vous voyez dans quelle position que les États-Unis et que nos pays israélites se retrouvent. Je vous donne ça aujourd'hui pour qu'on sache où on est rendu dans l'histoire, d'où ça vient et dans quelle situation on est et à quel point on a besoin d'avoir l'aide de Dieu et sa protection dans les temps qui viennent. Dieu va la donner à ses fidèles serviteurs. Il y a quelqu'un, Timberlake et Triplett dans leur livre qui disent « Nous ne devrions pas aiguiser l'épée qui pourrait être utilisée par les Chinois contre nous. » Et c'est ce qu'on a fait en leur faisant cadeau de visiter nos sites militaires et nos systèmes de défense. Les prophéties montrent que l'ascension de la Chine jouera un rôle très important dans le déclin de plus en plus accentué de l'Amérique et de l'Occident et dans sa chute. La Chine va jouer un rôle majeur. Et là, on voit ce qui se passe sur la scène mondiale, c'est que les États-Unis, à ce moment-ci, se retirent de son rôle historique sur la scène mondiale et se met à dos même ses alliés qu'elle avait avant. Parce que les gens commencent à la maudire à son arrivée et à son départ, comme on a vu tantôt et comme on voit dans les nouvelles chaque jour. Et l'Amérique et l'Occident sera même exclue, sera rejetée, sera méprisée et elle sera attaquée par les armées. Quand Dieu dit que nos peuples seront amenés en captivité pour que des gens viennent sur nos territoires, prennent les gens et les amènent comme esclaves, comme ça a été dans la Deuxième Guerre mondiale, il faut qu'il se passe des choses. Il faut qu'il y ait des attaques. Et tout ça se prépare actuellement. Vous savez, l'Europe, pour le moment, elle est encore relativement divisée. Mais ça avance pour qu'il y ait une union forte et qu'ils s'unissent. La Bible dit qu'ils vont former un. Bien sûr, ça ne sera pas complètement parfait parce que ça sera moitié de fer, moitié d'argile, comme on sait par la prophétie. Mais ils seront unis assez pour former la plus grande superpuissance du monde à un moment donné. Ça ne durera pas longtemps. Parce que tout ce que je vous parle, là, les trois empires qui vont s'affronter au temps de la fin, tout ça a lieu à l'intérieur des 3 ans et demi de la grande détresse qui est à nos portes actuellement. Alors, ça fait partie de ça. L'Europe, pour le moment, elle est encore un peu désunie. Elle n'est pas encore aussi forte qu'elle le sera. Mais quand elle sera unie, quand elle sera forte, on sait qu'est-ce qui va se passer. Les Arabes vont attaquer et peut-être qu'elle va s'unir aussi parce que les Arabes deviennent dangereux pour elle aussi. Pourquoi est-ce que ça va se passer que l'Europe va attaquer les pays arabes, les pays islamiques? Est-ce que c'est parce que les islamiques vont couper l'approvisionnement en pétrole? Est-ce parce que les islamiques vont attaquer de d'autres façons ou vont multiplier en même temps le terrorisme en territoire européen? Quelles que soient les modalités de ça, on sait qu'il y aura un conflit majeur à ce moment-là et que l'Europe va descendre au Moyen-Orient et va établir la paix, va prendre le contrôle de la région. Et à ce moment-là, la Chine et la Russie et les autres pays de leur groupe vont réagir. Ils vont s'opposer. Ils n'attaqueront pas tout de suite. Ils vont s'opposer, ils vont s'affirmer. Ils vont solidifier leur propre union pour faire contrepoids à cette immense machine de la dernière résurrection de l'Empire romain. C'est normal, ça se passe toujours comme ça. C'est une lutte de pouvoir. Alors, les Chinois, les Russes et ceux qui vont faire partie de ça, quand ils vont voir la bête descendre au Moyen-Orient et prendre le contrôle de là, ils vont s'unir aussi, ils vont se préparer parce qu'ils vont craindre également. Et ça va préparer directement leur vaste attaque militaire plus tard contre l'Europe. Parce que l'Orient va attaquer l'Europe. Et quand la bête européenne, l'Empire romain ressuscité, va attaquer les pays arabes dont je vous parle, il va s'en rendre maître, c'est à ce moment-là que le troisième roi, le vent d'Orient, le roi d'Orient, va entrer en action. D'ici ce temps-là, il est en train de se préparer. Et quand l'Europe va s'unir et va devenir plus forte, eux vont se fortifier encore davantage pour former leur propre bloc. Mais quand l'Empire romain va se rendre au Moyen-Orient, le roi d'Orient va entrer en action. Et c'est là que va se réaliser ce qu'on a lu tantôt. Daniel 11, verset 44. Daniel 11, verset 44. La bête sera établie au Moyen-Orient et des nouvelles, comme ça dit dans Daniel 11, 44, des nouvelles de l'Orient viendra l'effrayer, la bête, le dictateur. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. OK? Donc là, ça sera la contre-attaque, si vous voulez. C'est une attaque militaire de la bête contre les nations orientales. Et cette attaque-là, quand ça va se produire, ça va durer 5 mois. On voit, vous pourrez aller lire Apocalypse 9, versets 1 à 12. 1 à 12. Alors, quand la bête européenne va être formée, va être solide, et qu'elle va se diriger pour attaquer les pays arabes. Donc, on voit que le Moyen-Orient, pas le Moyen-Orient, mais le roi d'Orient, la Chine, la Russie et ce groupe de pays-là vont réagir. Et à un moment donné, ça va faire peur, justement, à la bête qui sera installée au Moyen-Orient. Et c'est là que des nouvelles de l'Orient viendront l'effrayer, et là, elle va partir pour détruire. Et c'est à ce moment-là que se produit ce que la Bible appelle le premier malheur, qu'on peut voir dans Apocalypse 9, versets 1 à 12. Ça va durer 5 mois, une attaque militaire de la bête contre les nations orientales. Attaque militaire de la bête contre les nations orientales. Premier malheur. Deuxième malheur dont parle la Bible par après, c'est la contre-attaque du roi de l'Orient, la Chine, la Russie, ses alliés, peut-être l'Iran même. Et là, ils vont réagir avec une armée de 200 millions de soldats. 200 millions de soldats. Allez à Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9. Ce qui s'en vient dépasse l'imagination. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale auront l'air des jeux d'enfants à côté de ce qui va se passer et à côté de ce qui vient. Apocalypse 9, on va lire versets 13 à 16. Ça, c'est le deuxième malheur dont je vous parle ici. « Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, Dieu est précis, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. » Alors, il y aura une mortalité épouvantable dans le monde. Regardez le verset 16. « Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. » Ça veut dire 200 millions de soldats. 200 millions de soldats. Je vous ai donné un aperçu tantôt de ce qu'est l'armée chinoise actuellement et de son potentiel. On n'a pas parlé de la Russie, on n'a pas parlé de l'Inde, on n'a pas parlé de l'Iran et des autres qui peuvent être avec. Ensuite, la Bible montre que ces deux immenses armées vont se rassembler près de Jérusalem, à Armageddon, pour une lutte finale pour le contrôle du monde. Apocalypse 16. Apocalypse 16. Et vous allez voir, ça correspond à ce qu'on vient de voir là. Apocalypse 16, on va commencer à lire au verset 12. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit. Pourquoi? Pour préparer la voie aux rois qui viennent d'où? De l'Orient, le vent d'Orient. Le troisième empire. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et si vous voulez poursuivre votre étude là-dessus, vous irez voir la description de ce combat-là dans Zacharie 14, versets 1 à 4. C'est précisé ce combat-là. Verset 15. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. » Et c'est pour ça qu'on vous donne ces messages-là dans l'Église. De veiller, d'être prêt, de nous purifier, de ne pas jouer avec notre appel, de prendre ça au sérieux. « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu. » On doit avoir des œuvres de pureté, des œuvres de vérité, des œuvres selon la Bible. On doit soutenir son œuvre, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Qu'il ait le caractère de Dieu, qu'il ait développé le caractère de Dieu. Et regardez le verset 16. « Ils se rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon, qui est tout proche de Jérusalem. La grande bataille finale n'aura pas lieu là, mais c'est là qu'ils vont se rassembler. Et c'est à ce moment-là qu'aura lieu le retour du Christ sur la terre. Et le Christ intervient justement pour empêcher que l'humanité se détruise totalement, parce qu'on a assez d'armes maintenant pour être capable de faire sauter la planète à plusieurs reprises. Donc, on sera rendu au maximum de danger sur la terre à ce moment-là. Il y aura un tiers des hommes qui seront morts à ce moment-là aussi. Et la terre sera dans des conditions épouvantables. Et le Christ revient à ce moment-là et il sera perçu par ces deux armées-là qui seront assemblées à Armageddon Le Christ sera perçu comme un envahisseur qui vient contre eux et les deux armées qui allaient s'affronter vont se mettre ensemble, comme on fait en politique, vont se mettre ensemble pour attaquer l'autre qui devient notre ennemi. Voyez-vous? C'est intéressant parce que les mentalités ont été préparées par les films et tout ce qui a été écrit sur les extraterrestres et ces choses-là pour que les gens croient le mensonge. Et qu'à ce moment-là, ils croient que ce grand personnage qui s'en vient, qui est lumineux, qui s'en vient du ciel, est un extraterrestre et qu'on doit le détruire. Alors ces armées-là vont s'assembler et vont attaquer le Christ. Mais ce sera la dernière attaque qu'ils vont faire à ce moment-là. Le Christ va les anéantir de façon surnaturelle pour établir ensuite un beau royaume de paix sur la terre, mettre fin aux guerres, aux misères, aux malheurs. Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. On va lire à partir du verset 19. Voilà ce qui se passe après que le Christ revient, après qu'il combat contre ses gens assemblés pour s'en prendre à lui. Et pendant que vous allez à cet endroit de votre Bible, je vais vous lire Zacharie 14. J'aime beaucoup ce passage-là. Je m'en sers dans les émissions aussi souvent parce que ça décrit vraiment ce que le Christ va faire à son retour. Zacharie 14, verset 1. « Voici le jour de l'Éternel arrive, le jour où le Christ va revenir, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » On l'a vu tantôt. Les deux grands groupes de nations vont se rassembler à Armageddon pour s'en prendre à Jérusalem et s'attaquer les uns les autres. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, c'est là qu'il arrive, et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Et après, on voit, verset 8, « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi, été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. » Formidable. Et au verset 11, « On habitera dans son sein, en parlant de Jérusalem, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. » La paix de Christ sera établie à ce moment-là. Mais revenons maintenant à Apocalypse 19, versets 19 à 21. Quand Christ va revenir, quand ces deux grandes armées seront rassemblées à Armageddon et vont descendre dans la vallée de Josaphat, qu'est-ce qui se passe? Le Christ va les anéantir. Et verset 19, « Et je vis la bête, le chef de l'Europe unie, et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée, au Christ qui est sur son cheval blanc et à ses serviteurs qui sont avec lui. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, le grand chef religieux, chef de mensonges, chef de misère humaine, chef de mauvaises choses qui a été répandue au cours de l'histoire, avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Alors, les deux dirigeants du monde à ce moment-là, le faux prophète, le grand chef religieux, et la bête, le chef militaire politique de l'Europe, seront jetés vivants dans un étang de feu. « Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, donc du Christ. » Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et là, c'est la fin de l'histoire malheureuse de l'humanité et le commencement du monde nouveau. Voyez-vous, on doit se préparer à ces choses-là. Mais avant, on doit se préparer aux choses qui viennent en étant, nous, prêts spirituellement. Vous savez, c'est le temps de mettre sérieusement en ordre notre maison spirituelle individuelle, notre vie spirituelle, d'être proche de Dieu. Lui, il nous a appelés. Il nous révèle sa prophétie, c'est ce qu'il nous a montré aujourd'hui. Et il nous le montre dans les événements du monde que c'est en train de se réaliser. Et il nous dit, préparez-vous, parce qu'une fois que ça sera déclenché, il faudra que vous soyez déjà prêts, et non pas commencer à ce moment-là. Parce que le Christ va nous dire, je ne vous connais pas. Il faut qu'on soit prêt avant que ces choses-là arrivent. Il faut être proche de Dieu. Il nous a appelés, il nous révèle, et c'est merveilleux, sa prophétie. Il veut et il peut nous donner, selon ce qui est écrit dans Luc 31, verset 36, Il peut nous donner, il veut nous la donner, la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout, vivant, devant le Fils de l'homme.